vos prières pour accompagner le pigeon voyageur régulièrement. C'est un rassemblement des enseignants des écoles privées évangéliques de Belgique qui, et puis aussi la visite d'une église. Donc voilà, c'est nos amis qu'on veut encourager et approfondir dans la vision, dans les relations. Voilà, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 1 et suivant. 1 Rois 19, verset 1 et suivant. Le contexte, c'est le prophète Élie qui vient de vaincre les prophètes de Baal. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea, but, se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa devant l'Éternel. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux, léger. Et quand Élie l'entendit, il s'envola par le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola pour le prophète à ta place. » Et donc ce texte m'a parlé pour ce matin, et Élie, c'est pas rien, parce que Élie, c'est, ça nous parle du ministère bien sûr prophétique, mais ce ministère dont Jésus va parler, parce que le ministère d'Élie, quand les disciples disent « Est-ce que Élie va revenir ?» Jésus a dit « Oui, il va revenir, et quand il reviendra, il va rétablir toutes choses. » Élie, c'est aussi Malachie chapitre 4, « Dans les derniers temps, je répandrai l'esprit, mais l'esprit d'Élie qui ramène le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères. » Et donc, en tant qu'église prophétique, eh bien, il y a quelque chose d'Élie. Et depuis l'investissement par rapport à l'éducation chrétienne, l'investissement au niveau de la journée starter et d'autres choses dont je vais parler tout à l'heure, tout ça nous montre qu'il y a cet esprit d'Élie actif, qui fait qu'on fait attention à la génération qui vient, qui veut qu'on transmette, etc. Mais dès qu'il y a du prophétique qui se lève, prophétique c'est un grand mot, mais qui veut simplement dire essayer d'entendre Dieu et de faire ce qu'il fait. C'est ça être prophétique. Hein. On peut être non charismatique et prophétique, j'aime bien le rappeler. Hein. On n'a pas la prétention d'être les seuls prophétiques. Mais quand on est prophétique, alors on a affaire à l'esprit de Jézabel. Et la victoire qu'il a eue sur tous les prophètes de Baal est une victoire extraordinaire. Nous avons vécu en tant qu'Église de grandes victoires, de grandes avancées, de grandes percées, de grandes visitations de Dieu. Mais l'esprit d'Élie est combattu par l'esprit de Jézabel. Et cet esprit de Jézabel, tout d'un coup, il a eu peur pour sa vie. Et donc il a fui. Et il en avait assez. Et en fait, Élie a dû gérer quelque chose qui nous tient tous, qui peut tous nous frapper, et je pense que chacun ici, aucun n'est indemne, la déception. Comment gérer la déception? Élie a été déçu de Dieu. Élie qui voit tous ces miracles, qui accomplit la volonté de Dieu, et voilà que encore on veut le tuer. Il pourrait se dire, mais où est la protection? J'ai marché avec Dieu, j'ai marché avec lui, j'ai eu des victoires. Pourquoi maintenant? Même ma vie, elle ne tient qu'à un fil. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Déception. Et voyez, quand il dit, j'ai déployé mon zèle, c'est-à-dire j'étais zélé pour toi, Seigneur. Toute ma vie, j'étais prophète, j'ai payé le prix. Et voilà où j'arrive. Je suis perdu dans le désert, je dois fuir. Personne qui m'aime quelque part, personne qui me comprend. Et puis on veut attenter à ma vie. Qu'est-ce qu'on fait? Et la question que je pose, qu'est-ce qu'on fait quand on est déçu de Dieu? Et quand on est déçu, quand il y a des prières inexaucées. Tu as prié pendant des années, ça ne vient pas. Prier pour une guérison. Une situation que tu n'as pas voulu. Toi, tu as marché avec Dieu, tu as voulu. Et il y a une situation qui brise ton cœur. Et tu ne vois pas que ça change. Déçu de Dieu. Déçu des autres. La déception est une des plus grandes prisons qui peut faire arrêter une marche avec Dieu. Je me rappelle une ancienne élève qui s'appelait Déborah de l'établissement Daniel qui était allée aux États-Unis. Et un jour, elle revenait en avion. Et sur le retour de l'avion, elle nous a dit, j'ai vu sur la France une puissance spirituelle. Et je dis, et alors, que tu as vu quoi? Elle m'a dit, son nom, je vais te le dire, c'est déception. Ça fait des années, ça fait 15 ans à peu près ça. Et je pense que la France est appelée à être prophétique. Je pense, vraiment, quand le réveil est venu, je pense à ces petits prophètes dans les Cévennes, les bébés qui prophétisaient. L'onction prophétique est sur la France. L'onction de la réforme, c'est une onction prophétique. Mais Jézabel a tué les prophètes. Jézabel a brisé un élan. Et aujourd'hui, on est là, de nouveau, le Seigneur nous dit, tourne-toi vers les enfants. Tourne-toi vers la jeune génération. Et de nouveau, il y a quelque chose qui se lève. Qu'est-ce qu'on fait quand on est déçu de Dieu? Donc on voit ici la honte quelque part. Alors, bien sûr, on pourrait dire il faut être authentique. Il faut être vrai. Et face aux déceptions, je pensais dans le réseau RNC, la mort de bien-aimé, récemment, toute une série là. Donc au niveau du leadership du conseil apostolique, des gens qui ont été touchés, une sœur qui part trop tôt, 41 ans, un petit-fils qui est hospitalisé, des gens qui sont malades, des cancers. Ça arrive aussi ça. Alors bien sûr, il y a aussi des guérisons, mais il y a aussi ça. Que faire? Alors la déception peut accompagner d'un sentiment de honte. La honte qui peut nous arrêter, nous cacher. Ne plus voir d'avenir, de perspective. L'esprit de Jézabel arrête la perspective. Tu ne vois plus dans l'avenir, tu n'espères plus. Et c'est ça qui s'est passé pour Élie. Et en fait, quand je vois Élie, je vois que la déception, elle doit être accueillie comme une émotion, comme une autre. Dieu est capable d'entendre, je suis déçu. Dieu est capable d'entendre, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère. Dieu est capable. Et Élie, il a livré son cœur. Et la Bible dit dans Psaume 51, c'est Dieu qui dit, je veux que la vérité soit au fond de ton cœur et que tu me dises la vérité. Dieu la connaît, mais il aime qu'on lui dise. Et ça ne sert à rien quand on est quelqu'un, je sais pas, quand on proclame le verset, tout concourt au bien, d'accord? Mais tout en toi est déçu, tout en toi est dans l'arrêt. Dieu, attends, il y a parfois entre la proclamation qui est juste, et c'est bien de proclamer, mais quand notre cœur est complètement aux antipodes de ce qu'on proclame, il y a un moment, il faut pouvoir dire aussi à Dieu. Imaginez, qu'est-ce que tu fais Élie? Élie qui dit, ouais, tout concourt au bien, Seigneur, c'est super. Non, Élie a dit, j'en ai marre. Il a dit, j'en ai marre, je ne peux plus, je suis tout seul. Et Dieu, il entend ça. Et même Jésus, sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette affirmation de Jésus, théologiquement, elle est fausse. Théologiquement, elle est fausse. Dieu ne l'a pas abandonné. Et Jésus lui-même a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Fausse théologie, mais émotion vraie. Parfois, il faut dire nos émotions. La vérité de nos émotions à Dieu. Même si ça semble un peu tordu. Et Jésus, bien sûr, on sait qu'il a cité le psaume 22 qui termine par les louanges, etc. Mais dans ce psaume, il y a l'émotion de Jésus à son père. Et voyez, ce qui est agréable à Dieu, parfois, même souvent, c'est un cœur brisé. Un cœur dans la foi, et comme Manuela disait tout à l'heure, un cœur dans la dépendance. La première émotion biblique, ça a été la honte avec Adam. La honte, il s'est caché sa nudité, caché avec des feuilles. Mais le mécanisme en face de l'échec, c'est souvent ça. Puis on le voit avec Élie, hein. On va fuir dans le désert et on va essayer de se couvrir. Alors se couvrir avec quoi? Avec des raisonnements, avec des idées tordues, avec des... On se couvre. Mais Dieu dit, fais tomber les masques, fais tomber tes feuilles, fais tomber tes feuilles de raisonnement, fais tomber tes masques d'apparence. 1 Jean 1, 6, 7, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus efface tout péché. Donc on voit ici, donc, il se trouve dans le désappointement. Lui, le prophète, se trouve dans le désespoir, manque de perspective, devant une femme, et ce n'est pas devant une femme qu'il a eu peur. C'est devant une principauté spirituelle qui était bien plus qu'une femme, qui dominait la nation. Ce n'était pas rien. Il a confronté une principauté spirituelle qui ne veut pas voir les prophètes se lever. En tant qu'église Josué, on confronte régulièrement Jézabel. J'espère que vous êtes au courant. Le prix d'une église prophétique, c'est la confrontation avec l'esprit de Jézabel. Séduction, déception, accusation, condamnation, c'est régulier. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et on doit être conscient qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Et parfois, des pensées qu'on croit nôtres ne sont pas les nôtres. Elles viennent directement de cet esprit qui ne veut pas voir se lever des prophètes. C'est quoi un mouvement d'école chrétienne si l'on levait des prophètes? C'est ça, notre rôle, c'est ça. Et donc, on a affaire à ça. Alors, l'Éternel dit, ben, sors, tiens-toi dans la montagne. Et l'Éternel passa, et donc, il y a le vent violent, les différentes étapes, et quand il entend enfin le murmure, il reconnaît la voix de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de ce jardin, Dieu qui parlait à Adam et Ève dans le couchant, la chaleur du soir. C'était pas violent, c'était pas les tremblements de terre. C'était un murmure, c'était un cœur à cœur. Et Élie a reconnu dans cette voix de murmure la voix de Dieu. Et donc, dans le silence de la caverne et ensuite dans le silence qui a suivi tous les bruits, il a entendu Dieu, un peu comme dans le psaume 46, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, rompu la lance, consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Il a été arrêté dans sa marche. Il y a des moments, des arrêts qui sont nécessaires. Des arrêts qui sont nécessaires pour entendre le murmure de Dieu. Et dans ce murmure, moi j'y vois aussi la capacité de... Ouf, on arrête. On arrête, on écoute, on se met en repos. Toute l'activité d'Élie, elle était belle, elle était voulue de Dieu. Mais parfois, nous, on peut se demander, toutes nos activités, qu'est-ce qui nous presse? C'est quoi la pression qui fait qu'on bouge? C'est quoi la pression qui fait qu'on se lève le matin et qu'on veut marcher avec Dieu, qu'on vient au culte? C'est quoi la pression? Il y a des pressions qui sont parfois pas bonnes. Qu'est-ce qui nous pousse en action? Eh bien, la pression que Dieu honore, et la seule qu'il veut sur laquelle on marche, c'est la pression de son amour. C'est la pression de son amour. Tout le reste, c'est du pipeau. Tout le reste, c'est du vent. La pression de son amour. C'est la seule pression à partir de laquelle la voix, le murmure d'amour de Dieu, le murmure qui dit « tu es précieux », ce qu'on a proclamé à la Sainte-Seine tout à l'heure, ça, c'est ce qui nous fait bouger. Ça, c'est ce qui nous fait agir. Et donc, cette écoute, ça va avec le repos. Hébreux 4, verset 9, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est lui qui entre dans le repos de Dieu. Celui qui rentre dans ce repos se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Entrer, se reposer de ses œuvres pour faire les siennes à lui, enfin, quelque part. Hein. Se reposer de nos œuvres. Tu as été bien zélé, c'est bien, Élie. Maintenant, je veux que tu repos. Et maintenant, je vais te donner une mission. Cette parole qui a relevé Élie était une parole qu'il n'aurait pas pu entendre dans l'action, dans le zèle, dans la course. Il a fallu être arrêté. Il a fallu être désarçonné, comme le cheval de l'apôtre Paul. Donc se reposer de ses œuvres pour entrer dans celles de Dieu. Et comme Jésus, là, qu'est-ce qui fait agir Jésus? Quand Jésus dit « Je ne fais que ce que je vois faire le Père », et qu'est-ce que le Père y fait? Eh bien, le Père, il aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Donc la clé, c'est la relation, c'est l'amour avec son Père. La clé de l'action de Jésus, c'est la pression de l'amour de son Père. Il n'y a rien d'autre. Il voit son Père qui l'aime, et donc c'est ça, ça lui suffisait. Ça, c'est la bonne pression. Et cette parole qu'a entendue Élie, c'est la parole du Père qui l'a relevé. La parole de Dieu. Une parole de Dieu, les amis, c'est plus précieux que tout. Plus précieux que tout. Et dans les zones de turbulence, on a besoin d'entendre cette parole. Est-ce que vous avez entendu la parole de Dieu ce matin? Déjà pendant cette sainte scène, il y a plusieurs choses que Dieu nous a dites. Saisis-tu cette parole? Cette parole, elle relève. Mais alors, la clé du relèvement, de l'abattement dû à Jézabel, la clé, elle est là, écoutez ça. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Shabbat, de Méola, prophète, à ta place. » Alors écoutez bien là. Là, il y a une clé que le Seigneur est en train de souligner. Dieu relève avec une parole de transmission. Et la parole, elle est forte. La parole, elle dit, tu vas oindre comme prophète à ta place. C'est impressionnant. C'est ça qu'il a relevé. Tu n'as plus de place pour toi. C'en est fini de ton ministère. C'est d'abord le ministère de ceux que je vais oindre. Ça ne veut pas dire qu'il en avait fini, parce que sa mission était de transmettre. Mais le sens de sa vie, ça n'a plus été son ministère. Dans le sens ministère de prophète seulement, mais c'est de transmettre. Et il a transmis à deux catégories de personnes. Il a transmis à des futurs rois, gouvernement civil, d'accord ? Et il a transmis à Élisée, gouvernement religieux. Nous avons ici la vision du royaume de Dieu. La transmission, la journée starter, la formation Timothée qu'il y aura. Au-delà, derrière tout ça, il y a un cœur pour transmettre et pour équiper les rois dans le domaine du ministère spirituel, Église, et dans le domaine du royaume de Dieu, société. Et ça a été le sens de la vie d'Élisée. La vulnérabilité d'Élie l'a conduite à entendre une parole, à se décentrer de lui-même, le sens de sa vie changé. Je me rappelle un peu à Lyon, au week-end RNC en mars dernier, nous avons eu un ministère australien, d'origine australienne je crois, mais qui travaille aux États-Unis. À lui tout seul, dans le ministère, il transforme une ville entière. C'est impressionnant. Et en fait, il a vécu, il nous a raconté qu'à un moment, il a vécu une grande crise, comme Élie. Grande crise. Il faisait des tas de choses, il y avait de la réussite, ça avançait, c'était bien. Mais il y a un moment, ça l'épuise. Il était épuisé, burn-out, il ne pouvait plus. Trop de choses. Et alors, dans ce temps-là, il a remarqué que le centre de son ministère était sur beaucoup d'activités. Et cette activité est devenue un activisme. Et il s'est décentré de la relation. Et en fait, c'est dans cette crise qu'il a vécue, Dieu l'a dit, je remets l'accent sur la relation. Alors, un détail, dans cette église, il n'y a pas de bureau, par exemple. Il n'y a pas de bureau. Alors, c'est intéressant, pourquoi il n'y a pas de bureau? Nous, on aimerait bien avoir un bureau. Il n'y a pas de bureau, parce qu'ils disent, le bureau, c'est être chez les gens. Le bureau, c'est les tables de salle à manger des gens. C'est manger avec eux, c'est être avec eux. Et donc, ils ont basé sur la relation avec la société civile, avec les chefs d'entreprise, avec les banquiers, avec les directeurs de cinéma, la relation. Et la ville a été transformée. La relation. Donc, nous avons ici, on sait que l'Église est un lieu de relation, une famille, et donc une famille, un lieu de transmission. Et transmettre, c'est quoi? Ben, c'est s'investir dans la formation en particulier de disciples. Transmission. Hein. Ce qu'on est, on est appelé à le donner. Nous ne sommes pas appelés à bâtir des églises, nous sommes appelés à former des disciples et de faire des nations même des disciples. Et la base, c'est quoi? C'est la relation et la base, c'est l'amour. Alors c'est parfois difficile. Personne ne peut avoir des relations avec tout le monde. Moi le premier. Mais par exemple, quand je vais en Belgique, la relation avec ces directeurs d'école, capitale, les heures passées avec eux. Alors c'est parfois une fois par an, une fois tous les deux ans. Mais c'est de la relation. Chacun, on a des types de relations différents. Hein. Il y a des relations locales, il y a des relations parfois au niveau national. Il faut investir dans des gens, dans des leaders. Et chacun doit être attentif là où il doit investir. Mais ça, c'est le commandement, la base, c'est cet amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, l'amour, c'est cette relation. Jean 14, mes petits-enfants, je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, etc. Et moi, ce qui m'a touché dans cette journée starter, c'est qu'on a, en tant qu'équipe de conseil, on s'est montré vulnérable avec nos questions, avec nos doutes, avec nos, parfois nos craintes. Et tout d'un coup, tous ces jeunes se sont dit, oula, oula, oh, il faut, on s'appuyait comme ça, mais peut-être que c'est nous qui devrions aussi servir d'appui. Et on est sorti de cette journée, le fardeau plus léger. Pourquoi? Parce qu'il était partagé. Et ce sentiment de responsabilité dans une relation d'amitié, c'est ce qui bâtit l'Église. Un esprit d'orphelin dans ce pays, on dit que ça suffit. Dans l'Église, trop souvent, il y a 90% de « aimez-moi », le cri qu'on entend, et 10% de « je t'aime ». Il faudrait que ça inverse. Il faudrait qu'il y ait 90% de « je t'aime » et 10% de « aimez-moi ». Et je ne dis pas que je classe cette église comme ça, mais en général, dans le corps de Christ, c'est ça. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et Dieu dit, maintenant, je veux que tu sois un père, que tu vainques l'esprit d'orphelin. C'est ce qui s'est passé à l'onction de Toronto, après les réveils de Pentecôte. Toronto, ça a été le réveil du Père. Je me rappelle ces ministères américains. Après le réveil charismatique, il y a eu tout un réveil de Pentecôte. Et après, ça suit par le réveil de la révélation du Père. Et ça a duré. Et depuis, ça continue de couler. Autrement, différemment, mais ça continue de couler. Et j'aimerais dire que la Pentecôte, l'esprit de puissance de la Pentecôte, sans la paternité, ça ne nous intéresse pas. Les prodiges, les signes, les miracles, sans la paternité, l'onction sans la paternité, la transmission, ça ne dure pas et ça ne nous intéresse pas. Dieu est un Dieu qui libère sa puissance dans sa maison et dans la famille avec des relations filiales et c'est comme ça qu'il s'affanne de faire. Psaume 92, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alors regardez, je ne sais pas si vous voyez ici, donc ils sont dans la maison de Dieu, les justes. Ils sont plantés dans la maison, ok? Et ils prospèrent dans les parvis. C'est quoi la différence? La maison, c'est là où on adore, où on loue. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais les parvis, c'est là où l'on touche la ville, la société. Psaume 92, verset 14. Donc, notre cœur, c'est de toucher cette ville. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas au niveau de l'école, le collège Daniel, après 20 ans, plus de 20 ans d'existence à Gavillère, à peine depuis un an. La ville est en train d'être touchée. Ça a mis du temps, et c'est normal. Mais notre cœur, c'est toujours de garder le cap. Garder le cap. Mais on ne peut pas toucher une ville si on n'est pas planté dans la maison d'Adonai. Être planté, sinon tu te plantes. C'est une phrase de... voilà. Plante-toi, laisse-toi planter dans la maison. Et tu prospères. Et il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? Le culte, il déborde. Et comme on voit avec le ministère guérison, voilà, entre nous... on prie pour les gens, tout ça, et puis à un moment, Dieu dit, oui, débordez. Voilà. Et bien le débordement sur la culture, c'est le signe d'un culte authentique. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, lorsque dans Actes 1:8, il est dit, vous recevrez une puissance. C'est le mot dynamis. Est-ce que vous savez que ce mot dynamis, c'est les mêmes racines? Donc là, il y aura un travail, je le laisse au prof de... D'ailleurs, je vous donne un travail. Vous allez me chercher les significations grecques de tout ce champ sémantique de dynamis. Et je peux vous dire qu'il y a un rapport avec la notion de dynastie. Dynamis, dynastie, il y a un rapport. Alors, à chercher. Hein, c'est plusieurs qui m'ont parlé de ça. Je n'ai pas approfondi moi-même. Mais allez-y, il y a du travail. Dynastie vient de dynastai, adoration, domination, exercice. Dynasteia vient de dynastes, seigneur, maître, dominateur. Dynastes et dynamis, ça va ensemble. Donc, à travailler. Mais en tout cas, la puissance de Dieu se manifeste toujours dans la notion de famille et de dynastie. Et les actes des apôtres, c'est un début de dynastie. Et le monde a été touché par des dynasties, des gens qui ont un cœur de père, une famille. La France a été gouvernée par des dynasties, des familles royales. Eh bien, Dieu, c'est un Dieu de famille. Et il travaille avec des dynasties. Abraham, Isaac, Jacob. Et ça n'a pas changé. Et dans l'esprit des dynasties, il y a la dynamis, il y a la puissance. D'ailleurs, on le voit parce que la première famille qu'est la Trinité, c'est la zone de concentration d'énergie et de puissance la plus phénoménale du monde, puisque c'est de là qu'est né le cosmos. Donc, le gouvernement va avec la notion de dynastie qui va avec la notion de puissance. Et donc, la transmission fait partie de l'activation de la dynamis. Transmission. Tu oindras Jéhu, fils pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, prophète, à ta place. Là, nous sommes une communauté du royaume. Je rappelle que le mot ecclésia, hein, c'était pas. Je rappelle, dans l'Empire grec, c'était jusqu'à. Donc de 400 avant Jésus-Christ jusqu'à 400 après Jésus-Christ, le terme ecclésia, c'est les gens pour gouverner des cités, la démocratie grecque. Pour exercer le gouvernement sur la ville, trouver des solutions, encourager la prospérité économique, le bien-être d'une ville. Bref, c'est une dimension politique. Et le conseil des anciens dans l'Ancien Testament, ils étaient au port de la ville, dimension politique. Donc quand Jésus a choisi le mot « ecclésia », je bâtirai mon église, mon ecclésia, il a fait référence à cette notion donc de gouvernance et de toucher la ville. Et donc, il faut que, si on veut toucher, il faut qu'il y ait cette transmission. Il faut qu'il y ait cette transmission. Et les jeunes qui sont là, l'attitude de cœur pour recevoir la transmission, c'est une attitude qui est une attitude filiale quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui soit au-dessus des autres. Mais l'attitude pour recevoir, c'est tellement important. Si on croit qu'on n'a rien à recevoir des gens, on ne reçoit rien du tout. Et le Seigneur, il veut qu'on reçoive les uns des autres. Et nous aussi, on a à recevoir, bien sûr, des plus jeunes. Mais cette attitude-là est capitale. L'Église, c'est d'abord une maison, mais elle est aussi une ecclésia. Et donc, on est appelé, Éphésiens 4:2, à préparer les saints pour l'œuvre du ministère. Et là, j'aimerais encore souligner ce mot ministère. Le terme grec, c'est pour l'œuvre, pour administrer. C'est pour administrer. Il n'est pas dit préparer les saints pour prêcher. Il est dit préparer les saints pour administrer, pour gouverner. C'est bien plus large que la prédication. Hein. Et donc, administrer quoi? Eh bien, administrer le royaume. Et le royaume, ce n'est pas l'Église. Le royaume, c'est bien plus que l'Église. Le royaume de Dieu, c'est là où tu es, partout où tu es. Partout où tu es, il y a le royaume. Tu es un représentant du royaume. Donc, pour administrer, notre compréhension actuelle, souvent, n'est pas tant d'équiper pour la notion sacerdotale, c'est-à-dire être des bons chantres, être des bons diacres, être des ministères, les cinq ministères, les prophètes, les apôtres. Non, c'est pas seulement ça. Il nous faut absolument exercer le mandat du royaume de Dieu aux portes de la ville et planter dans cette maison et pour fleurir au niveau des parvis. Le but de la transmission, c'est pas le service de l'Église. J'aimerais qu'on souligne, hein. Le but de la transmission, ce n'est pas le service de l'Église. Le but de la transmission, c'est le service pour le monde. Et donc, ça commence par l'Église, là aussi. Il y en a qui disent, moi, ce n'est pas mon affaire, l'Église, moi, c'est toucher le monde. OK, mais Dieu dit, si tu ne prends pas soin des tiens, de ta famille, tu es comme un renégat. Donc, on commence par l'Église. Et quand on est fidèle dans les choses que Dieu nous confie au niveau familial, il nous confie au niveau extra-familial. Donc la formation Timothée, elle est, qui va démarrer, et on va faire les publicités bientôt. C'est une formation une fois par mois, vendredi soir, samedi matin. Elle est ouverte à tous ceux qui sont engagés quelque part dans l'Église. Et pour ça, il faut voir au niveau du conseil aussi, il faut pouvoir discuter avec les uns les autres. On a parlé au niveau des jeunes, il y avait 25 jeunes, on leur a dit, vous avez le choix, mais ceux qui veulent s'engager dans un secteur quelque part, la porte est ouverte pour qu'on aille plus loin au niveau de cette formation Timothée. Elle n'est pas réservée aux 18-35 ans, elle va démarrer en janvier, mais elle est réservée pour ceux qui sont engagés quelque part. Et donc cet engagement, c'est pas forcément, il y a différents types d'engagement, il faudra pas hésiter à venir nous voir, mais voilà, elle est pas, c'est pas une formation où on s'assoit et puis voilà, c'est bien, ça va être super. Elle est basée sur le service, hein, sur l'accompagnement 2 et sur bien sûr le contenu 3. C'est notre ami Hachim d'Allemagne qui va nous aider, qui a installé des tas de formations en Afrique, implantation d'églises, c'est vraiment un ministère apostolique. Implantation d'œuvres et d'églises partout en Afrique francophone, Afrique du Nord en particulier, Mauritanie, enfin des trucs pas faciles. Et donc, il nous aide au niveau du réseau héritage pour développer ça. Et on s'est dit, mais l'accompagnement, c'est capital. Et puis là aussi, au niveau de notre église, sachez qu'il y a notre sœur, Madame Beyerly, qui va faire une formation coaching. Alors, elle n'est pas pour tout le monde, c'est simplement un petit groupe pour l'instant, ça va être renouvelé. On va commencer à former dans cette église des gens qui peuvent coacher et qui seront habilités à coacher d'autres. Donc c'est qu'un début de processus. Si vous entendez parler de cette formation coaching, elle est déjà bookée, c'est-à-dire que les gens, on sait déjà qui c'est, on ne peut pas être plus qu'un certain nombre, mais on aimerait vraiment continuer cette culture de la formation coaching, parce que chacun ici, on est appelé à coacher d'autres, bien évidemment. Donc ne le prenez pas mal si vous entendez qu'il y a une formation coaching, mince, j'y suis pas. Non, attendez, il y a un temps pour tout, on avance, mais franchement, je crois que tout le monde est appelé à ça. Donc, mais aussi le service. Donc l'idée, c'est que transformer la vision de la pratique de l'Église et que dans tous les secteurs, que ce soit l'enseignement, la formation, la technique, etc., il y ait de l'intergénérationnel et qu'on lève les leaders dans tous les secteurs. Donc pour qu'il y ait leader, il faut une maturité et il faut pouvoir recevoir un même ADN. La formation Timothée, tout le conseil va la suivre. Vous allez dire, ils n'en ont peut-être pas besoin. Mais si, on va la suivre nous-mêmes. D'accord ? Parce qu'on pense qu'il y a un ADN commun à bien mettre en place avant de dire on va le transmettre. Donc voilà, le but, encore une fois, c'est pas lever des gens pour le service de l'Église, mais c'est pour lever des gens pour la mission et la vision de l'Église, qui est d'incarner le royaume de Dieu, d'être une famille, mais qui incarne le royaume de Dieu. Donc c'est beaucoup plus large que simplement former des gens pour cette église. Donc voilà, le but, c'est cette formation, le moyen, c'est cette formation. Et je crois qu'en tant qu'église, on a été un peu comme Élie. C'est-à-dire qu'à un moment, on a buté, ça bloquait, vous voyez, ça s'arrêtait. Alors Jézabel est derrière, bien sûr, mais Dieu est derrière surtout. Et Dieu dit, alors, t'es fatigué là, tu t'épuises? Bon, c'est bien, jusqu'à quand là tu vas? Tu cours là, c'est bien. C'est bien. Et les autres, là? Alors maintenant, tu t'arrêtes, d'accord? Tu arrêtes tout et tu vas transmettre. Et donc cette année, ce n'est pas une année de 36 programmes, c'est une année d'un programme. Et c'est la transmission. Et j'invite, dans l'Église, nous sommes tous appelés à cette maturité, non pas de ministère, mais d'être d'abord des gens mûrs, c'est-à-dire des cœurs de père et de mère. Et même quelqu'un qui a 20 ans, j'aimerais dire, ceux qui ont 20 ans et au-dessous, si tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit du Père. Et tu es appelé à être un Père. Et quand je pense aux tout-petits qui sont dans l'église, ils ont besoin de Père et de Mère. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans pour être un Père et une Mère. À 15 ans, tu peux avoir l'esprit du Père. Et donc, il faut que ça rentre partout, que cette passion de la transmission, je crois que c'est une étape où Dieu relève, donne une nouvelle vision, et va faire lever véritablement une génération et pose les bases. Ça prendra un an, deux ans, peut-être plus, on va voir. Mais je crois que dans les années qui viennent, le leadership sera complètement transformé, la façon de travailler complètement transformée. On ne sait pas encore tout à fait où on va, mais on sait qu'on n'y va pas tout seul et qu'on y va avec la vision intergénérationnelle. Parce que dans la dynastie, entre père, fils, petit-fils, dans l'esprit, dans la chair, il y a de la dynamisme et de la puissance. Alors que Dieu nous aide à recevoir les uns des autres et à comprendre l'étape dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le temps d'Élie et Dieu va faire souffler l'esprit d'Élie et c'est normal qu'on ait affaire à Jézabel de temps en temps. Te laisse pas détruire, te laisse pas accuser et surtout ne rentre pas dans l'accusation des autres. L'esprit de Jézabel, c'est ça. Non seulement il t'accuse, mais il veut te faire accuser les autres et voir leurs péchés, leurs machins. Il faut arrêter, mon ami. Il faut arrêter. Il faut nous soutenir. Il faut voir le Christ chez notre voisin, chez notre sœur, chez notre frère, chez les enfants. Et puis laisser bâtir le Seigneur, cette belle église, pour toucher, pour bénir, pour inspirer notre ville, notre pays. Amen.
Et sachons une bonne protection, la culture de l'honneur, comme vient de le dire Luc, voir le Christ dans l'autre. Et si on voit autre chose, prions. Prions d'abord, qu'est-ce que ça évoque en moi? Et faisons le ménage, et prions pour l'autre, et couvrons, et sachant que le Saint-Esprit peut faire ce que nous, on ne peut pas faire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne t'es pas trompé en nous mettant tous ensemble. Et je veux te bénir pour chaque membre de cette communauté. Je veux te bénir pour chacun d'eux parce que chacun a une facette de toi, des trésors de ta part. Et on veut apprendre à marcher de mieux en mieux, à nous honorer les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres et prier comme toi tu pries pour nous être ses intercesseurs et nous laisser interpellés par toi. Merci pour ce temps du Yom Kippour qui passe et nous allons vers Soukhot. Merci pour ce temps où tu nous rappelles que comme avec Élie, tu marches avec nous. Et Seigneur, dans nos tempêtes, on veut venir dans ce rocher pour entendre ta voix et savoir que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Père. Cher Saint-Esprit, viens sceller ces paroles dans nos cœurs et viens les faire germer, viens les compléter, viens nous donner de comprendre de mieux en mieux. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Fais-nous comprendre la dynamis et la dynastie qui sont vraiment le signe de qui tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus. Je vous rappelle que nous sommes le premier dimanche du mois et que donc ce temps est suivi par un temps de jeûne.